Excellent après-midi sur Europe 1, il est 13h. Et vous écoutez Raphaël Duchemin, c'est La France Bouge.
Midi 30, 14h.
La France Bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est votre émission et c'est vous qui êtes à l'honneur tous les jours parce que c'est vous, eh oui, qui faites bouger la France. Gros plan aujourd'hui sur les cabarets. Ils font le plein pendant les fêtes, une spécialité française que le monde entier nous envie. Ils ont choisi un ours comme emblème. Columbus Café est français, c'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis avant le réveillon, vous voulez vous faire coiffer, maquiller à domicile, pourquoi ne pas passer par Wicasa ? C'est la solution pour avoir un artisan chez vous, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez le numéro, vous avez la parole. Venez nous dire si vous avez déjà poussé la porte d'un cabaret. C'est un univers à part où nous allons pénétrer ensemble aujourd'hui. Car s'il y a bien un lieu qui est synonyme de fête à la française, c'est le cabaret. Pour en parler avec nos invités, comme chaque jour à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach du jour, Mathieu Davy, fondateur de Col Lawyer. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Alors quand je vous dis cabaret, je suis sûre que vous avez tous en tête des images qui défilent et des musiques aussi, pourquoi pas ? L'histoire raconte que le premier cabaret fut créé à Montmartre, le Chat Noir, dans les années 1880. Mais en cherchant bien, on trouve même leur présence bien avant, décrit comme des lieux de débauche par les uns, par d'autres, des endroits où tout simplement on vient rire, s'amuser, manger, danser, où les artistes se produisent. Et parmi les plus emblématiques de ces cabarets, il y a évidemment le Lido. Bonjour Hervé Dupéré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez cette institution parisienne depuis 8 ans maintenant. Le Lido, c'est une adresse hein, d'abord, celle des Champs-Élysées, et puis un lieu incontournable de Paris quand on vient découvrir la ville lumière.
Oui, le Lido fait partie des monuments parisiens installés depuis 1946 sur les Champs-Élysées. Donc c'est vraiment le Lido égale Champs-Élysées. Depuis maintenant plus de 20 ans dans une nouvelle salle, beaucoup plus grande que celle historiquement créée, qui était une petite salle. Et le Lido vient de ce nom, d'une représentation des plages de Venise, avec des gondoles. C'était un lieu de convivialité, un petit peu plus coquin. Et puis devant le succès en 1976, le Lido est devenu... au 116, dans cette immense salle avec 1200 places.
Ça fait 70 ans que cette institution, on peut dire institution existe. Comment est-ce que l'aventure démarre ? Comment est-ce que naît l'idée du Lido ?
Le Lido s'est lié donc en 1946, ce lieu, une famille italienne qui crée cette... en sous-sol, ces petits canaux, ces gondoles, des danseuses, des artistes qui se présente devant un public plutôt masculin au départ. Et ensuite, c'est devenu un spectacle sur un petit volume de scène. Mais il y a toujours eu, dès le début, cette volonté de faire rêver. Et puis, cette salle est devenue vraiment complète. Il y avait de la danse, il y avait des attractions, il y avait déjà des tableaux avec de l'eau, alors qu'on était dans quelque chose de très petit. Et puis voilà, comme c'est devenu une institution, ce succès,
Succès dû en 48 notamment aux Bluebell Girls, hein. Vous êtes d'accord avec moi?
Les Bluebell Girls qui sont la signature artistique du Lido, ce sont ces fameuses danseuses qui ont été créées par la maîtresse de ballet de l'époque, Margaret Kelly.
Avec la revue Confetti.
Avec la revue Confetti en 1948. Et aujourd'hui, donc, ces fameuses Bluebell Girls dont on fête l'anniversaire, elles sont toujours fidèles. Alors, à leur allure incroyable, parce que pour être une danseuse du Lido, il y a des critères qui n'ont pas changé depuis maintenant plus de 72 ans, les fameux 1m75 minimum pour la taille.
Oui, il y a des critères effectivement très particuliers. Il y a aussi le célèbre French Cancan. Il y a sous les jupes des filles, hein, comme dirait Alain Souchon, 100 kilos, c'est ça, de plumes d'autruche teintées en rose, montées à la main.
C'est vrai que les costumes du nouveau spectacle Paris Merveille, qui date maintenant de 3 ans, et demi, qui a été créé par Franco Dragon. Pour la petite histoire, c'est un des créateurs du Cirque du Soleil, Céline Dion à Vegas. Donc, a amené une modernité dans les costumes, dans la scénographie. Et aujourd'hui, effectivement, le French Cancan du Lido, c'est un French Cancan de plumes roses qui ont été teintées et montées une par une.
Elisabeth, les cabarets en France, le Lido bien sûr, mais d'autres, c'est quoi ça? Ça représente quoi?
Alors le Lido évidemment, mais aussi le Moulin Rouge, le Crazy Horse, chez Michou. On estime à 200-250 cabarets aujourd'hui en France. À Paris, les étrangers représentent 40% de la clientèle. Chaque année, ces cabarets reçoivent près de 3 600 000 spectateurs français et étrangers, dont 2 400 000 pour les seules revues parisiennes.
Que dit notre coach Mathieu Davy ?
Le coach, il connaît le Lido, évidemment, et ça fait partie des monuments, comme vous l'avez dit, de ces vieilles dames parisiennes qui font son histoire. Moi, j'aimerais vous mentionner un contre-cabaret, un cabaret féministe, qui s'appelle le Mal est fait, qui est un cabaret autoproclamé féministe et pensé par la compagnie Association K, qui traque sur scène la misogynie du quotidien, déniche les perles phallocratiques de nos grands hommes et montre en creux que l'égalité des sexes reste une quête. Vous en pensez quoi, au Lido ?
Ah, Hervé Dupéret.
Ben nous, la femme au Lido, elle est sublimée. Il y a eu un respect total depuis toujours sur la danseuse du Lido. C'est pas simplement une jolie jeune fille d'1m80 qui déambule sur scène. Chacune ont leur identité. Il y a 70 artistes sur scène. Et quand on fait des castings, on choisit vraiment des caractères, des types de personnalités qui incarnent la française, mais aussi bien ces 12 nationalités différentes. Donc aujourd'hui, il y a un respect profond de la femme sur scène. C'est pas du tout la femme objet, loin de là. C'est une femme forte, moderne, qui est déterminée et qui est entourée avec 12 garçons sur scène. Donc vraiment, elle a ce rôle d'une femme moderne.
Y a des couturières aussi qui sont là depuis 30 ans, je crois, Hervé Dupéret.
Oui, on a un atelier couture avec une dizaine de couturières qui sont là pour entretenir des costumes qui sont utilisés 7 jours sur 7, 365 jours par an et avec 2 spectacles par jour. Donc ça nécessite un entretien, une remise à niveau, de repailletage, de soigner les plumes, de les peigner, de recolorer l'ensemble des choses, du nettoyage, le pressing est intégré. Donc c'est une vraie petite usine. C'est 300 personnes au Lido qui travaillent dans l'ombre pour que tous les jours, on puisse ouvrir en temps et en heure à 19h.
Elisabeth,
vous parlez des vêtements qui sont soigneusement préparés, mais les femmes, est-ce que est-ce que vous les entretenez, mais est-ce qu'il y a des salles de sport, des coiffeurs, des esthéticiennes, est-ce que vous prenez en charge aussi tout ce qui fait la jolie femme que l'on voit sur scène?
Alors, nos artistes sont comme des grands sportifs, hein, donc c'est vrai qu'elles ont aussi...
Il y a un entraînement.
Un entraînement individuel qui est extrêmement important. Il y a du coaching qui est fait au niveau du Lido, on a un kiné, on a un médecin, donc elles sont vraiment prises en charge de façon très importante au niveau de leurs conditions physiques. Ensuite, chacune, justement, peut gérer son état physique, mais leur corps et leur outil de travail, donc elles en prennent un soin extrêmement important.
Dites-moi, pourquoi est-ce que ça perdure, justement, cet amour du cabaret? Est-ce que vous sauriez le dire? Parce que quand on est à la tête, finalement, d'un établissement comme le vôtre, comment on fait pour garder l'esprit, en même temps le renouveler? Il y a quand même de grandes artistes, hein, qui sont passées sur la scène du Lido. Je pense à Piaf, je pense à Dalida, je pense à, évidemment, Joséphine Baker.
C'est vrai que le Lido aujourd'hui est un spectacle qui fait rêver, les gens veulent rêver. Je pense que le spectacle vivant est quelque chose qui aujourd'hui va devenir encore de plus en plus à la mode. On est tellement impliqué dans des écrans 3D, plongé dans des téléphones, dans des smartphones, qu'aujourd'hui je pense de voir des vrais artistes sur scène, de voir des performances artistiques,
de
voir
des acrobates. On a besoin de cette évasion.
Et puis c'est vrai qu'on a voulu évoluer le spectacle du Lido, c'était innover sans bouleverser, surprendre sans scandaliser et inventer en gardant la tradition. Donc c'est faire rêver, transporter pendant 1h40 en dehors du temps.
On reste ensemble, on continue à parler des cabarets français, bien sûr, sur Europe 1 aujourd'hui.
Europe 1.
Le cabaret parisien a inspiré d'autres concepts, en région notamment. C'est le cas en Alsace, où s'est créé le Royal Palace Music Hall. A tout de suite.
Europe 1.
Parce que certains ne peuvent pas venir à Paris, n'ont pas les moyens de s'offrir aussi parfois un cabaret dans la capitale. Il y a aujourd'hui d'autres solutions en région, en Alsace notamment, où est né le Royal Palace Music Hall. Bonjour Pierre Meyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Elisabeth Assayag m'accompagne. À côté de vous, il y a notre coach du jour, Mathieu Davy. Vous avez repris, vous, en 1980, je crois, le restaurant de vos parents. Comment vous est venue, racontez-moi, l'idée de le transformer en cabaret ?
Ben, mes parents, ils avaient déjà dancing depuis 48, donc il y avait toujours eu
un
la
dancing,
fête.
Un dancing, on disait à l'époque.
Oui. Et donc, moi, j'ai démarré les repas dansants après le bal. Et j'ai rajouté un petit bonbon de plus. C'était un petit spectacle que j'ai acheté à Paris avec 7-8 artistes. C'était mes débuts. Et on a fait découvrir le spectacle de cabaret en région.
Mais quand on a l'idée d'un cabaret, comment on fait pour aller chercher les artistes et leur dire « Venez, vous allez voir, en Alsace aussi, il se passe des choses. À Kerviller, vous n'avez pas la renommée, par exemple, du Lido ou d'autres cabarets. Comment est-ce que vous vous y prenez
pour aujourd'hui, qu'ils viennent ?» Aujourd'hui, il n'y a plus de problème.
Aujourd'hui, je sais bien, oui. mais au départ.
Au départ, c'était assez difficile parce que c'est vrai, les artistes, quand ils venaient, ils se disaient où c'est qu'ils vont attirer dans une grange. Quand ils traversent donc, tous ces petits villages, ils arrivent au bout là, du monde et voilà qu'il y a ce fameux cabaret. Mais disons qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé, on a tellement évolué, ça fait quand même 38 ans. D'investissement dans la qualité du spectacle et aussi dans l'outil de travail.
Oui, parce que vous avez changé d'endroit, vous avez agrandi.
Oui, il y a eu 82, il y a eu 89, il y a vraiment eu... Et puis alors, c'est des grands, grands investissements. Et puis au début, pendant 8 ans, 9 ans, on a donc acheté des spectacles tout faits et après, on a commencé à créer nos propres spectacles. À l'époque, c'était un challenge incroyable parce qu'il fallait présenter donc un spectacle pour 6 mois parce qu'on a construit une vraie scène avec des décors. C'était déjà une grosse production. Hein. Et donc, 300 personnes pour arriver au point zéro, hein, donc 5 fois par semaine. Et par rapport à avant, où on présentait le week-end un autre thème. Hein. Mais là, on est parti tout de suite, 6 mois après, on a fait des productions annuelles qu'on fait encore aujourd'hui. Et c'est devenu quelque chose d'important aujourd'hui.
Oui, parce que vous avez quand même 200 000 personnes qui viennent vous voir chaque année.
Tous les ans. Et là, au mois de décembre, on atteint cette année le record 50 000 au mois de décembre.
Ça veut dire qu'il y a combien de personnes pour faire fonctionner cette machine avec vous derrière au village de Kerviller ?
Il y a 130 personnes.
130 personnes.
Oui, il y a entre la restauration et... Puis le spectacle, il y a 40 artistes sur scène.
Dans un village de 460 habitants.
Oui.
Et vous arrivez, dites-moi, Pierre Meyer, à faire venir aujourd'hui des jeunes ou c'est un public d'un certain âge ?
Ben, en semaine, les matinées, c'est des retraités.
Les matinées, c'est-à-dire ça démarre vers 11h ?
Les matinées, c'est le repas de midi avec le spectacle à 14h30. Donc ça, c'est pour les retraités. Hein. Mais en soirée, surtout le week-end, il y a beaucoup de jeunes parce qu'on fait des spectacles très modernes. Et on était aussi, à l'époque, le premier à mettre un mur de LED au fond en tant que décor. Ça veut dire marier le décor traditionnel avec... les murs de LED. Aujourd'hui, on a pour 1,2 million de murs de LED. C'est énorme ce qu'il y a. Et vraiment, la qualité, on fait du 4D, on fait travailler les artistes en interactif. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les jeunes qui trouvaient avant un spectacle, ils pensaient que le cabaret, c'était ringard. Ben maintenant, ils voient. Et c'est pour ça qu'on a aussi rajouté le Lounge Club, qui est devenu comme une discothèque, si vous voulez, mais un très grand luxe. Et après le spectacle, tout le monde va dans ce lounge club pour finir la soirée.
Vous aviez, dès le départ, envie justement de faire un cabaret à la parisienne ou vous aviez en tête quelque chose de totalement différent ? Vous vous êtes dit quoi quand vous avez repris l'affaire de vos parents ?
Bah, au début, c'était des petits spectacles. C'était des soirées pigalles, des soirées tahitiennes, des soirées... thaïlandaise, enfin, on avait je ne sais plus combien de thèmes, de troupes qu'on achetait à Paris tout fait chez des agents artistiques qui existaient beaucoup.
Oui, avant de produire finalement votre propre
voilà, c'est ça, c'était
produit.
Ça les débuts et on donnait un bonbon de plus, si vous voulez, à ce repas dansant où il y avait un orchestre, mais il y avait quelque chose en plus. Et ça a attiré plus de monde. Il fallait qu'ils viennent jusqu'à Kirchwiller. On ne les a pas sur place. Et donc, aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus important parce que sur la qualité qu'on présente aujourd'hui du spectacle, c'est important que le client qui sort de chez nous, qu'il a envie de revenir. On a besoin de ça, c'est parce que les clients ne sont pas sur place.
Elisabeth, on peut dire que l'avenir des cabarets, c'est aussi en dehors de Paris.
Mais oui, c'est surtout et aussi en région. Il y a de nombreux lieux contemporains qui ont ouvert leurs portes, qui se sont transformés en cabarets en région. Et parmi tous les cabarets de Provence, il y en a pas mal qui se démarquent, dont vous, monsieur, à Kirchwiller.
Il y a aussi eu pas mal de transformations hein, dans le milieu du cabaret.
C'était obligé pour pouvoir évoluer et rester en place. Paris a mis en place des transformations de music hall en bar, des clubs ou des salles de spectacle. Et ceux qui résistent, ceux qui sont encore là, ils n'ont pas hésité à choisir la montée en gamme, comme vous.
L'équipe progresse.
Voilà, les équipements.
Le cabaret n'est pas réservé qu'à la capitale. Même si c'est là, c'est vrai qu'il est né, le concept voyage très bien en région et chacun l'adapte à sa manière. C'est ce que vous avez fait, David Comette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes agriculteur. Et alors, vous avez créé les Folies Fermières à Garrigues, dans la région de Toulouse. Comment est née l'idée? C'était en 2013, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il se passe que moi, j'ai malheureusement réussi mes études. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, mes parents ont à tout prix voulu que je sorte de la ferme pour faire des études. Donc, j'ai été professeur de mécanique sur des BTS. Et ensuite, j'ai été directeur d'exploitation dans un lycée agricole juste à côté de chez nous, à Lavaur, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, mes parents étaient sur le point de vendre la ferme parce que problème de rentabilité. Et moi, j'étais en train d'enseigner l'agriculture à 300 élèves par an. Et là, il y a eu un moment de conscience professionnelle où je me suis dit, il faut faire quelque chose pour l'agriculture et redonner une autre image des éleveurs en France.
Oui, parce que quand vos parents étaient toujours à la ferme, hein, qu'ils exerçaient, qu'ils travaillaient, il y avait chez vous, dans le village de Garrigues, il y avait 200 agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10.
Tout à fait.
Donc, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous avez commencé à faire évoluer ce concept de ferme avec d'abord, je crois, une boucherie charcuterie,
voilà,
c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné de mon poste de directeur en lycée agricole pour justement reprendre la ferme. C'est-à-dire, j'ai divisé mon salaire par deux, mais j'ai multiplié aussi ma liberté par 10, ma liberté d'entreprendre. Et à partir de là, on a essayé de retrouver le lien producteur-consommateur. Donc, dans un premier temps, avec une boucherie charcuterie à la ferme. Et on a montré aux consommateurs qu'en France, on est capable de faire de très bons produits. Et ensuite, ma femme m'a rejoint. Et vu qu'elle était passionnée de cuisine... Eh bien, elle a mené le projet donc,
de ferme auberge.
De ferme auberge, voilà.
Mais alors, attendez, la boucherie, la ferme auberge, d'accord. Mais pourquoi le cabaret?
Au départ, la ferme auberge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un repas avec des produits du terroir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que chaque producteur amène son produit dans l'assiette, on appelle ça le spectacle dans l'assiette, parce que tous les produits, à plus de 50%, viennent de ma ferme et des fermes avoisinantes. Et une fois qu'on a eu mis le spectacle dans l'assiette avec tous les petits producteurs locaux, on a dit que ça serait quand même sympa de peut-être mettre un peu de spectacle sur scène. Et après, de fil en aiguille, on s'est spécialisé pour justement arriver aujourd'hui là où on en est.
Et alors, qui vient aujourd'hui? Vous avez réussi à démarcher des artistes pour venir aux Folies Fermières?
Et alors, des artistes, au début, ça a été compliqué, hein, comme tous les cabarets de province. Et après, quand on leur explique le concept, à ce moment-là, on s'aperçoit que les artistes acceptent de participer à l'aventure.
Oui, parce que du coup, maintenant, sur scène, vous avez des ventriloques, vous avez des danseurs, vous avez des gens qui viennent faire des tours de magie dans votre spectacle.
Voilà, tout à fait, oui. Alors, on a essayé de monter notre première revue.
Oui. Voilà. Elle s'appelle comment, cette revue?
La première revue s'appelle Les Rêves. Et là, on est sur notre seconde qui s'appelle Nébuleuse.
Voilà. Oui, avec un concept totalement différent.
Avec un concept qui a un petit peu évolué, justement. Oui.
Vous connaissez ou pas, Mathieu?
Complètement. Enfin, je dirais à ma femme que je n'y ai jamais été, mais si, je
elle,
crois connaître.
Elle vous écoute. Elle
je
vous
crois
écoute.
Connaître de loin. Non, c'est formidable d'avoir des initiatives locales. Et puis en plus, le bonheur est dans le pré. Le moulin rouge, ça fait pousser le moulin à poivre, hein, finalement, dans l'histoire. Avoir des bons produits, peut-être exécutés par des personnes qui elles-mêmes sont nourries au grain et au bon air, ça fait des danseuses et des chanteurs formidables. Non, c'est top d'avoir une sorte de reconquête du village. Moi, ça fait penser un peu à Cinéma Paradiso. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, vous faites revivre votre village ou votre petite ville à travers le spectacle du samedi soir où on peut manger, rire, danser, chanter. C'est assez formidable.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que du coup, il y a des commerces, David, je ne me trompe pas, qui se sont réimplantés à Garrigues. Et évidemment, vous avez créé de l'emploi.
Voilà, tout à fait. Donc là, ça fait maintenant 11 ans que j'ai repris la ferme. En 11 ans, on a réussi à recréer donc deux commerces de proximité dans cette commune rurale où rien n'existait, c'est-à-dire donc une boucherie à la ferme ainsi qu'une ferme auberge. En tout et pour tout, maintenant, on est 14 emplois. Voilà. Et surtout, on a réussi à sauver le dernier élevage de la commune, ce qui était le challenge du départ.
David, il y a aussi un livre en préparation, Les Folies Fermières. Il sort très bientôt, au mois de février, c'est ça?
Alors, le livre, oui, va sortir en février pour l'occasion au Salon de l'Agriculture, où on fait rentrer les plumes au Salon de l'Agriculture. Alors, pas forcément les
Elles
plumes.
Elles y sont déjà, dites-moi, les plumes au Salon de l'Agriculture.
Sauf que là, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est un livre, oui, qui raconte l'histoire avec les éditions du Rocher, qui a été aussi, avec qui j'ai travaillé, avec Anne Leblé, voilà, qui m'a aidé à la rédaction de ce livre. C'est pour expliquer un petit peu toute cette nouvelle image qu'on veut donner à l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture reste quand même quelque chose de très joli. Et nous, aux Folies Fermières, on a voulu tenter ce mariage impossible de la culture et de l'agriculture.
Vous êtes content aujourd'hui d'avoir tout laissé derrière vous, vos études, comme vous disiez tout à l'heure? Vous regrettez rien?
Non, je regrette rien. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est un gros challenge. C'est un challenge, c'est une vie qu'on donne à un projet. Et à partir de là, on se donne tout le temps les moyens. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on vient d'être récompensé par la région. On a été élu la start-up agricole de la région Occitanie. La région nous accompagne dans ce projet pour continuer à mettre à l'honneur tous les produits de la région Occitanie. Et on a été aussi référencé, premier cabaret à la ferme de France. Donc, on est très content d'avoir ce titre-là aussi. Quoi.
Et nous, on est content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du cabaret à la française. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Le cabaret reste-t-il une institution en France? On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est français, eh oui, et c'est la France qui bouge. À tout de suite. La France bouge et nous vous emmenons au cabaret aujourd'hui. Et oui, c'est une des traditions françaises que le monde entier nous envie. Nous sommes avec Hervé Dupéré, directeur du Lido. Nous sommes avec Pierre Meyer, fondateur du Royal Palace Musical à Kirwiller en Alsace. Et avec David Comet, fondateur des Folies Fermières, près de Toulouse à Garrigues. Toujours à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayeg et notre coach aujourd'hui, Mathieu Davy, fondateur de Call a Lawyer. Elisabeth, le cabaret, ça a aussi un prix, hein, on en parlait tout à l'heure, et quand on veut y aller, il vaut mieux réserver.
Il vaut mieux réserver, et là surtout, il faut réserver en ce moment, cette fin d'année, c'est important parce que vous le savez, il y a eu énormément de manifestations, notamment à Paris. On le sait que la plupart des cabarets qui sont très fréquentés se trouvent à Paris. Il y a eu une baisse des réservations de 20 à 30% dans les cabarets pendant les trois premières semaines du mois de décembre. Une perte qui est déjà estimée à entre 6 et 10 millions si les gens ne viennent pas, donc il faut réserver, continuer à sortir et continuer à aller au cabaret.
Et oui, continuer à s'amuser. Alors justement, est-ce que Hervé Dupéré, vous avez constaté cette baisse? Est-ce que par exemple, vous êtes complet pour le 31? C'est bientôt, c'est dans 4 jours.
Alors nous étions complets pour Noël et nous sommes complets pour le 31. Il nous reste, je crois, 12 places. Donc
12 places.
C'est plutôt une belle fin d'année.
Oui, il faut se dépêcher. Même question pour vous, hein, David, du côté de Garrigues. Vous faites le 31, évidemment.
Oui, bien sûr. Oui. Donc nous, on est complet. Bon, on n'a pas eu de perturbation aussi importante qu'à Paris. C'est un peu l'avantage aussi d'être en province. Voilà, donc de ce côté-là, pas de souci.
Et vous, Pierre Meyer?
Les deux séances sont complètes.
Les deux séances sont complètes. Ouais.
Ça fait du bien, ouais. Ça fait plaisir à entendre.
Oui, ça fait du bien. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on vient chercher cette part d'évasion, hein, dont vous nous parliez au début de l'émission, Hervé Dupéré. On en a plus besoin aujourd'hui. Vous avez senti qu'il y avait des creux dans l'activité? Il y a des moments où on a plus besoin, plus envie de venir au Lido, par exemple?
Au Lido, on a une activité qui est assez linéaire sur les 12 mois de l'année. On va dire que juillet et août est particulièrement la période la peut-être un petit peu moins chargée, parce que nous, on a un mix de clientèle assez important, aussi bien les particuliers, la clientèle entreprise, les collectivités, le tourisme international. Et selon les saisons, les périodes de vacances, l'activité peut être un tout petit peu différente. Mais on a une activité tout au long de l'année qui est importante, mais il est vrai que le mois de décembre fait partie des gros mois de l'année.
Oui, c'est pareil pour vous, Pierre Meyer, oui. En Alsace. Oui, le mois de décembre, c'est vraiment le gros mois.
C'est vraiment le gros mois, parce que déjà, on a deux spectacles au mois de décembre. Il y a le Noël des enfants. C'est un show pour les enfants qui est extraordinaire. Depuis 20 ans qu'on fait ça, d'année en année, ça devient de plus en plus fort. Et voilà, donc sinon octobre, novembre, c'est les trois mois,
évidemment.
On fait 50% du chiffre d'affaires en trois mois.
Et chez vous, du côté de Garrigues, David?
Alors nous, le mois de décembre, c'est le mois des volailles festives. Donc on met à l'honneur nos produits. Et là, pour le réveillon, on présente un chapon fermier farci au foie gras, vous voyez. Donc c'est un petit peu une de nos spécialités qu'on met dans l'assiette.
Alors, les Français aiment, et on l'a dit, hein, aller au cabaret. C'est le cas de Claudine qui est à Créteil et qui est avec nous. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Nous vous accueillons parce que vous êtes une habituée, manifestement, des cabarets. C'est presque une tradition chez vous, je crois.
Oui, en fait, j'aime bien les soirées, particulièrement au Moulin Rouge. Nous avons un zèle pour le 31 décembre.
Oui.
Parce qu'en général, c'est la première fois que je fréquente ce cabaret.
Oui.
Mais en fait, notre idée, c'était surtout de vivre une belle soirée de prestige et puis plein de paillettes. Voilà, c'était un petit peu, puis sortir un petit peu des restaurants traditionnels et des dîners entre amis 31. Nous, on voulait changer un petit peu. Et puis, on avait un autre événement en cité aussi, c'était notre anniversaire de mariage.
Ah.
Donc, on s'est dit, le Moulin Rouge, pourquoi pas.
Pour oui, c'est une soirée exceptionnelle, c'est ça?
Voilà, c'est un. Pour moi, c'est je souhaite vivre un. J'ai réservé vraiment dans cet objectif de vivre un moment magique en fait, avec plein de paillettes dans les assiettes, sur scène. On entend parler tellement de ce Moulin Rouge et de cette belle revue, donc Voilà, on a cassé un peu la tirelire.
Et alors, pourquoi le Moulin Rouge, racontez-nous, comment s'est opéré votre choix?
Alors, mon choix s'est opéré parce que le Moulin Rouge, d'abord, je rêvais d'y aller depuis très très longtemps. Nous sommes parisiens, on n'a jamais eu trop l'occasion d'y aller. On voulait changer un petit peu notre mode de fonctionnement pour le 31 décembre. On n'est pas toujours soit à l'étranger, en Europe du Sud ou des dîners avec des amis. On s'est dit, on fait ça à deux. On fête notre anniversaire de mariage et on essaie de vivre un moment fabuleux parce que quand j'entends un petit peu tout ce qui se dit sur la qualité du spectacle du Moulin Rouge, j'avais très très envie d'y aller en fait. Et je me suis dit, cette année c'est l'occasion.
Merci beaucoup Claudine de votre appel. Hervé Dupéré, on entend exceptionnel, paillette, cette envie de soirée hors norme finalement. C'est ce que les gens viennent chercher quand ils viennent au cabaret.
Oui, quand les gens viennent faire une soirée au cabaret, quand ils viennent donc chez nous au Lido, c'est vraiment pour en prendre plein les yeux, pour sortir du quotidien. C'est un dîner, c'est une ambiance. Nous, pendant le dîner, on a les équipes de cuisine sont sur place, c'est 30 cuisiniers, tout est fait à la minute. On a un orchestre magique avec une première mondiale qui anime ce dîner avec le son de 30 instruments, plus 2 chanteurs et guitaristes. Et ensuite, 1h40 de spectacle qui en met plein les yeux, qui vous évade. Comment imaginer sur les Champs-Élysées avoir une patinoire avec de la vraie glace, un bassin avec des jets d'eau avec 80 000 litres d'eau, un lustre de cristal de 6 mètres de hauteur? C'est ça la magie, c'est faire apparaître et disparaître d'un seul coup, d'un claquement de doigts, les choses. Donc beaucoup de soirées d'anniversaire, beaucoup de soirées pour fêter un événement qui marque dans la vie.
Cette magie, elle opère évidemment au Lido, elle opère aussi chez vous, je suppose, du côté de Kirwiller, Pierre Meyer.
Oui, bien sûr.
C'est ça aussi qu'on vient chercher.
Exactement, c'est beaucoup de gens qui viennent pour une occasion exceptionnelle. Et donc, comme on change de spectacle tous les ans, c'est vrai qu'il y en a qui regardent tous les ans le spectacle.
Spectacles sont copiés? Est-ce qu'on regarde un peu ce que fait le voisin? Est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs?
Non.
Non, je ne pense pas. Non, parce que c'est comme un restaurant aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple de plusieurs restaurants gastronomiques. On va avoir une signature du chef. On peut se régaler dans différents restaurants, mais manger des choses totalement différentes. C'est un peu la même chose quand on va à Kirwiller, on voit un spectacle, une signature. Quand on vient au Lido, on voit un spectacle avec une signature. Quand madame va au Moulin Rouge pour le 31, et elle aura vu une signature et je l'invite, vu qu'elle est parisienne, à venir ensuite comparer pour l'anniversaire l'année suivante. Et elle
oui.
pourra comparer en tant que parisienne. Elle aura les deux visions de deux signatures de très beaux spectacles. Chacun son...
Oui, chacun sa signature,
chacun
sa marque,
signature, sa marque de fabrique.
Que dit notre coach?
Moi, je reste un peu bluffé par Folie Fermière, oui. Par les volailles en folie. On pourrait parler du French coin-coin. En fait. et je me dis, est-ce que vous adaptez vos repas, vos menus au spectacle? Est-ce que finalement, il y a une relation presque artistique?
Attention,
également
c'est la nébuleuse,
dans la création du repas par rapport peut-être à la saison et aussi au spectacle que vous allez faire?
Alors oui, nous les produits, on les travaille donc de saison, toute l'année. On a l'avantage d'avoir une boucherie charcuterie à la ferme, donc on travaille sur des produits exclusivement frais. Donc je veux dire, on est sur un rapport avec les produits producteurs-consommateurs qui est vraiment le plus rapproché possible. Voilà, et ensuite, pour le spectacle sur scène... Ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors on n'a pas le niveau des cabarets parisiens, j'en conviens, mais on a quand même une certaine qualité et les gens sont extrêmement surpris de ce qu'on peut faire à la campagne, parce que déjà, bon, il n'y a pas besoin d'arriver avec les bottes, et on s'aperçoit que sur scène, il y a un spectacle qui est quand même, à mes yeux, vraiment de très bonne qualité.
Est-ce que justement aujourd'hui, les gens viennent vers vous et vous disent « moi j'aimerais venir participer à votre spectacle ». Alors, ou est-ce que c'est vous qui faites toujours la démarche d'aller chercher des artistes nouveaux?
Alors les artistes, au début, oui, on allait les chercher. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très régulièrement des candidatures de chanteuses, danseuses, ventriloques, magiciens qui postulent justement pour venir travailler chez nous. Alors j'explique que nous, on est une petite institution. Voilà. Et que bon, du coup, on essaie aussi de faire des auditions pour justement les sélectionner. Et donc du coup, arriver à présenter quand même un spectacle sur scène propre.
Vous aussi, Pierre Meyer, il y a des gens qui viennent taper à la porte et vous dire « j'aimerais monter sur scène chez vous ».
Ah bah oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de demandes. Il y a tous les jours plusieurs demandes, et surtout les numéros d'attraction aussi, parce que les numéros, il y en a beaucoup, mais les numéros rares, et nous, on a beaucoup, on a 6 numéros
Par
d'attraction,
exemple.
Plus le magicien. Et
un
les
numéro
numéros...
rare, c'est quoi, par exemple?
Bah, un numéro d'exception, on a les numéros qu'on a actuellement, c'est des numéros que j'ai signés il y a 2 ans déjà. On travaille 2 ans
il
à l'avance.
Il faut anticiper.
Pour avoir...
hein.
Ah oui, oui, absolument, pour que le numéro soit disponible pendant la durée du spectacle. Et donc, il faut aller loin. Moi, je suis allé à pratiquement tous les festivals du cirque, de...
Pour repérer les bons artistes, c'est pareil, voilà. Je suppose, au Lido, vous avez aussi cette capacité d'anticipation.
Alors pour les attractions, effectivement, il faut anticiper, parce que ce sont des artistes qui sont extrêmement demandés, et vu le niveau qu'on leur demande, ils sont assez rares. Et ensuite, pour les artistes, on fait plusieurs castings par an, et on a des demandes par dizaines tous les jours, et un casting, c'est entre 70 et 100 artistes qui viennent sur la scène et qui font un casting, et parfois on en garde une, voire deux, parce qu'effectivement... on a des critères extrêmement draconiens.
Et pour voir évidemment le résultat, je vous invite tout simplement à vous rendre dans les cabarets français. C'est une de nos fiertés évidemment ici dans l'Hexagone. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Il a révolutionné le monde des coffee shops à la française. Columbus Café est l'entreprise qui va bien. Merci. L'entreprise qui va bien aujourd'hui est née en 1994, c'est Columbus, Columbus Café. Bonjour Nicolas Richet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. À l'époque, quand la chaîne française de coffee shop se crée, c'est clairement une inspiration anglo-saxonne, on peut le dire.
Absolument.
Columbus, dites-moi, c'est pour Christophe Colomb, c'est ça?
C'est pour Christophe Colomb, ouais.
Pour le voyage,
c'est pour
l'aventure.
Appeler la découverte.
Ouais, le problème, c'est, je crois, quand évidemment les Starbucks arrivent en France, hein, c'est comme ça que se pose le premier problème pour Columbus. Là, c'est la dégringolade. On est quoi? On est dans les années 2000-2004?
2004, ouais, complètement. Donc, 10 ans après la création, Starbucks arrive en France. Le coffee shop en France n'est pas encore connu, il n'a pas pris son envol. Donc, la chaîne a eu des difficultés jusqu'en 2007 à peu près.
Oui, l'idée de départ était bonne, mais il a fallu la développer, en tout cas la développer autrement. Vous arrivez, Nicolas, en 2008, vous aviez déjà créé quand même une chaîne de restauration rapide. Hein.
Oui, alors j'ai créé en 2002 une chaîne qui s'appelle À la carte, un salade bar. Et en 2008, j'ai la chance de pouvoir reprendre Columbus Café avec un partenaire privé.
Comment ça se passe? On vient vous chercher?
On vient me chercher lors d'une rencontre, en fait. On me dit, tiens, nous, on s'occupe de Columbus, on a des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc ensemble? Alors, ça paraît un peu louche quand on dit, on a des problèmes, on fait un truc ensemble, mais c'était la vie.
Ouais, vous vous lancez dans l'aventure. Comment vous faites pour repositionner Columbus sur finalement un autre marché?
J'ai commencé par appeler le fondateur, qui est devenu un copain, donc Philippe Bloch, pour lui dire comment ça marche. Et de là, il m'a dit, écoute, j'ai pas réussi, donc je peux pas te dire. Mm-hmm. Et puis, bon, on a quand même...
Mais l'idée était bonne.
Ouais, l'idée était super. Ouais. Enfin, super, aujourd'hui. C'est d'abord s'intéresser à ses clients. Quels sont les clients ou qu'est-ce que doit apporter un coffee shop? Et là, le meilleur exemple, c'était de regarder ce que font très bien les cafés de quartier, ou ce que faisaient les cafés de quartier, donc des lieux de vie, où les gens se retrouvaient en famille pour... historiquement, écouter la radio dans les années 50 et puis après ça, vivre un moment de partage.
Ouais, faire une chaîne, mais finalement plus à la française, hein, c'est ça. C'était le mariage des deux qui était un peu compliqué.
Oui, c'est être français avant tout. C'est là où c'est compliqué. Parce que le...
Et alors c'était quoi être français dans une chaîne comme Columbus?
C'est remettre un comptoir, un lieu de consommation au comptoir simple, où on peut prendre un café, un croissant et un journal.
Vous proposez aujourd'hui une gamme beaucoup plus élargie aussi. Vous avez retravaillé un peu ce concept. Hein. Il n'y avait pas que le café et le muffin, finalement. Vous avez élargi tout ça.
Ouais, être français, c'est aussi travailler une offre food, comme vous, une offre de restauration traditionnelle. On a des sandwichs baguettes, on a des sandwichs plus américains, comme le bagel ou comme des club sandwichs plus anglais. Mais c'est avant tout refabriquer sur place ou remettre du savoir-faire dans la restauration des coffee shops.
Ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez en 2008, vous commencez par fermer des lieux. Vous en gardez, je crois, 3 hein, oui. sur 27. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Là, je n'avais pas le choix. C'était une petite entreprise. Les 27 perdaient de l'argent. Donc, j'ai dû trancher.
Et les 3 que vous avez gardés, pourquoi ceux-là?
parce que c'était ceux qui me paraissaient être les plus faciles à relancer, ou qui étaient le plus en face par rapport au concept ou à la proposition de service que j'imaginais pour la suite.
Alors vous imaginez, et puis en 2011, vous lancez le nouveau concept.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'il a de plus, dites-moi, le nouveau par rapport à l'ancien? Est-ce qu'il y a une recette miracle?
Non, malheureusement, c'est du petit commerce et c'est beaucoup de petits détails qui font que le client retrouve...
Ouais, vous avez complètement repensé le service client quand
oui,
même.
Oui. En fait, ce qui m'avait surpris, c'est quand j'interrogeais les clients qui étaient devant un Columbus autrefois, ils disaient ça a l'air super, mais quand on rentre, on est déçu.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne retrouvaient pas l'offre qu'ils espéraient avoir du café, au fait, du café de quartier. Donc, on a retravaillé à partir de là en disant, si le client est déçu par une offre classique de coffee shop, sachant qu'on n'a pas la notoriété des concurrents américains, il faut qu'on puisse lui apporter un service qu'il attend. Et c'est tout simple, c'est déjà de ne pas faire la queue, c'est d'aller vite, hein, c'est de pouvoir répondre rapidement et de ne pas passer 10 minutes à attendre qu'on s'occupe de lui. Donc, s'occuper des clients dès qu'ils rentrent, avoir une offre de produits, enfin, avoir des produits qui sont... simple mais bon, donc fabriqué sur place. Donc on s'est mis à fabriquer nos muffins sur place. Donc on les cuit devant le client dès qu'on peut, mais avant un four dans le Columbus, on les cuit devant le client. On fabrique nos sandwichs sur place, on fabrique des desserts aussi. Bon, c'est tous ces petits détails qui font qu'aujourd'hui ça prend.
Elisabeth ?
Alors là, vous parlez de l'expérience client, ça a l'air très très agréable, mais alors le goût du café, il vient d'où votre café ?
Alors notre café, il est à 4 origines différentes aujourd'hui. Donc ça peut être du Guatemala, du Brésil, d'Éthiopie, mais surtout on le fait torréfier en France par des gens du Nord
et on fait à quel endroit
à côté de Lille. La société s'appelle Méo et sont devenus des amis. Ils nous font notre café.
Que dit notre coach Mathieu Davis?
C'est impressionnant parce que Columbus, en fait, vous rivalisez avec Starbucks. Vous pesez presque à peu près la même chose en France, de ce que je comprends, c'est-à-dire une centaine de points de vente. Et en même temps, vous êtes éco-responsable, éco-durable, donc vous utilisez du café torréfié, vous êtes Max Havelaar, vous n'avez que du jetable ou du gobelet en carton. Mmh. Et fatalement, vous êtes obligé, j'imagine, de vous aligner sur les prix de ce concurrent. Comment vous faites ? Comment économiquement vous arrivez à rester compétitif alors que vous avez des contraintes responsables qui fatalement sont plus chères?
Alors, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer ailleurs. Et puis, alors non, il n'y a pas que ça. Mais surtout, on travaille à livre ouvert avec nos fournisseurs. Et quand je disais que notre torréfacteur est un ami, le boulanger, enfin l'artisan boulanger qui est devenu industriel est devenu aussi un ami. Donc, le prix passe après. Même si le prix est important, il faut que lui gagne de l'argent et que nous, on gagne de l'argent aussi.
En 2016, vous avez lancé une filiale, ce qui vous a permis d'aller à l'international. Vous avez aujourd'hui 170 emplacements, c'est ça? Vous êtes présent à l'étranger?
Alors, pour être tout à fait juste, on a 180 points de vente en tout, oui, dont 20 internationales. Donc l'international démarre. On a des gros projets pour tout début 2019 en Pologne, où là, on va accompagner une chaîne existante dans laquelle on prend une participation pour développer. On est aussi sur un projet assez court terme au Canada et au Japon.
Et vous avez développé également des capsules Nespresso, hein, qu'on trouve aujourd'hui en grande surface,
ouais,
avec, ouais, la petite tête de l'ours.
Oui, ouais, ouais, j'en avais marre il y a
et
quelques années.
Elles sont très bonnes.
Ouais. Merci. Ouais, ouais, c'est un projet qui date j'ai imaginé il y a 4 ans et qu'on a lancé il y a 2 ans. Donc des capsules compatibles sur tous les formats, Nespresso, Senseo, Dolce Gusto, et qu'on vend dans les supermarchés, hypermarchés depuis 2 ans et demi.
Et la bonne nouvelle, c'est que Columbus gagne de l'argent aujourd'hui, chiffre d'affaires 72 millions d'euros, c'est ça ?
Exactement.
L'avenir, c'est quoi ?
L'avenir,
c'est Pologne, ça c'est sûr.
C'est continuer, donc la France, parce qu'on ouvre 30 Columbus tous les ans en France, l'international qui doit rattraper la France, parce que c'est plus grand, c'est normal, et puis nos petites capsules qu'on doit essaimer un peu partout.
C'est l'entreprise qui va bien. Merci, merci Nicolas Richer d'être venu nous parler de Columbus Café aujourd'hui.
Europe 1.
Restez avec nous, trouvez un coiffeur pour le soir du 31, une esthéticienne pour venir, pourquoi pas, vous maquiller à domicile. C'est possible, la solution s'appelle Wicasa, des artisans qui viennent chez vous. Vous avez envie de vous chouchouter sans sortir de chez vous? Nous avons la solution. Elisabeth, ça tombe bien, hein, en cette période de fête.
Oui.
Ça s'appelle Wicasa et l'objectif, c'est tout simplement de nous simplifier la vie.
Mais oui, en 2 clics, tout type de service à domicile autour de la beauté, du bien-être, de la coiffure, du massage et du ménage aussi, hein, parce que ça fait partie du bien-être de se faire aider à la maison. Le principe, c'est une carte cadeau Wicasa qui commence à 30€ et le plus par rapport à d'autres plateformes, c'est que ce sont des artisans en France qui sont sélectionnés. une façon de soutenir de jeunes entrepreneurs, Raphaël.
Bonjour Antoine Châtelain.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Wicasa. D'abord, pourquoi Wicasa ? Ça veut dire quoi ?
Wicasa, c'est la communauté des professionnels du service à domicile qui viennent nous aider chez nous avec le sourire.
Mais pourquoi pas en français ?
Parce que on trouvait que ça sonnait bien et qu'on a envie d'aider d'abord tous les Français. C'est pour ça qu'on propose tous ces services à domicile sous un délai de 2 heures partout en France. Et pourquoi pas ensuite son éval international, d'où notre nom Wicasa.
Pour que ce soit exportable.
Ouais, un coup d'avance donc.
Alors des entreprises de services à domicile, moi pardon mais j'en connais des tonnes. Qu'est-ce que vous avez de plus par rapport aux autres ? Alors,
en fait on est vraiment parti de notre point de vue de consommateur et avant tout de jeunes mamans qui travaillent, de jeunes papas qui travaillent, mes associés et moi. Et puis on s'est dit... Comment ça se fait que dans notre quotidien, on court comme des fous et qu'on ne trouve pas un moment pour soi ? Eh bien, tout simplement parce que ces services de bien-être à domicile ne sont pas suffisamment accessibles. Ils existent, mais c'est trop compliqué, il faut réserver à l'avance, c'est pas facile. Sur Wicasa, c'est hyper simple. Vous allez sur le site wicasa.fr ou bien vous téléchargez l'application et vous réservez en 2 clics pour votre rendez-vous partout en France sous un délai de 2 heures. Et c'est ça qui change tout.
Donc c'est la rapidité,
c'est le délai,
la différence.
C'est la facilité de réservation et c'est la sélection de ces artisans donc du service à la personne qu'on a opéré, qui fait que vous êtes sûr d'avoir quelqu'un de bien qui arrive avec le sourire pour vous faire un service de qualité.
Vous les sélectionnez comment ? Comment savez-vous qu'elles sont si bien, ces personnes ?
Alors, on reçoit des candidatures tous les jours, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de talents dans ces métiers-là. Il y a énormément de Françaises, de Français qui ont envie d'être indépendants, de travailler à leur compte, parce que ça leur permet de maîtriser leurs horaires, de mieux s'épanouir dans leur vie professionnelle. Donc, chaque jour, ils viennent à nous et on va vérifier leur diplôme, on va vérifier leur ancienneté dans le métier. Et ensuite, on va démarrer la collaboration avec eux et les clients notent les prestations. Et c'est tout ce cercle vertueux qui permet d'avoir des prestations de très bonne qualité.
Que dit notre coach, Mathieu ?
Alors le coach va parler au nom de Colo Lawyer un peu, puisque c'est un peu le service que nous on fait pour les avocats, qu'on n'importe pas à domicile. Mais donc vous ubérisez finalement en fait certaines professions. Quand je dis ubériser, c'est-à-dire prendre du temps disponible d'agenda pour ces professions.
On n'aime pas le mot ubériser.
Moi, bien sûr, moi non plus, mais on me le dit aussi. Mais dans l'idée en tout cas de remplir l'agenda de professionnels qu'on a besoin. Mais comment effectivement, vous avez certainement parfois des professions dites réglementées. Par exemple, je pense à des infirmières, est-ce que vous avez des thérapeutes ? Alors, est-ce que vous êtes sur ce type de prestations où là, fatalement, il y a des responsabilités ? Est-ce que vous, j'imagine que vous vous déchargez ces responsabilités en tant que plateforme de mise en relation, mais comment vous garantissez derrière ces points sensibles ?
Antoine Châtelain.
C'est très important, effectivement. On intervient sur des professions qui sont réglementées. La coiffure est un métier réglementé. Il faut être diplômé au minimum d'un CAP coiffure. La beauté est un métier réglementé. Il faut au minimum un CAP. Et en fait, on apporte des clients supplémentaires à des professionnels qui sont déjà indépendants. Parce que des coiffeuses à domicile, il y en a des milliers partout en France. Des esthéticiennes à domicile, il y en a des milliers partout en France. Elles existent déjà. Il y a eu un formidable essor avec notamment la création du statut d'auto-entrepreneur. Et donc, nous travaillons simplement avec... Nous allons chercher les meilleurs talents dans ces métiers et dans les personnes qui sont déjà auto-entrepreneurs. Et on leur apporte des clients supplémentaires. Donc c'est... dans le respect total de la loi et même dans un respect humain, parce que on leur permet de bien vivre de leur métier et justement d'avoir un revenu complémentaire par rapport aux clients qu'ils ont déjà en direct.
Alors justement, vous dites que vous contribuez à lutter contre le travail au noir. Pourquoi ? Comment ?
Alors parce qu'il faut savoir que dans les métiers du service à domicile, il y a énormément de travail au noir et bien souvent, c'est plus pour des raisons de praticité que pour des raisons réellement de ne pas vouloir déclarer. La plateforme Wicasa, ça permet de sécuriser le paiement, ça permet de sécuriser la facturation. Et donc, c'est un gain pour le client et aussi pour la professionnelle qui est payée et qui n'a pas à se prendre la tête avec ses factures.
Mathieu ?
Certaines activités illicites, parfois, viennent se draper dans ce type de service. Il y a des services comme Stouty, comme Sarah Service qui existent. Et par exemple, je pense à des services de prostitution derrière le massage, par exemple. Des services de vente de drogue sur des produits autorisés. Comment est-ce que vous arrivez à traquer que votre service n'est pas contourné ou instrumentalisé par des gens, par un système parallèle en fait.
Oui, la confiance c'est fondamental, c'est vraiment ce qu'on propose tous les jours à nos clients et ils nous font confiance justement parce qu'on contrôle qui rentre sur la plateforme. Donc par exemple, tout professionnel qui va proposer ses services chez nous,
aussi,
on va vérifier son diplôme, on a parlé tout à l'heure des diplômes, on vérifie qu'elles ont le CAP, elles l'envoient à la plateforme avant de pouvoir commencer, on vérifie qu'elles sont professionnelles, donc on leur demande leur numéro Siren, ça, ça sécurise déjà énormément. Et ensuite, côté client, s'il y avait à la marge un client qui avait un mauvais comportement, immédiatement, ça nous est reporté et c'est blacklisté. Finalement, travailler sur Wikesa pour un professionnel ou bien passer sur Wikesa en tant que client, c'est plus sécurisant que d'aller prendre un annuaire et d'aller à l'aventure, essayer de trouver quelqu'un par soi-même.
Merci Antoine Châtelain, ça s'appelle Wikesa, c'est la solution aujourd'hui. Merci à Mathieu Davy qui était notre coach. On se retrouve bientôt.
Merci Raphaël.
On se dit à l'année prochaine, 2019.
Hein. J'espère.
Et puis nous, on se retrouve lundi.
Et bien à lundi Raphaël,
en direct,
bon
évidemment.
Week-end,
nous passerons le 31 ensemble. Merci. Sur Europe 1.
Merci Raphaël et à lundi sur Europe 1. Votre après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat. Christophe Ondelat vous raconte aujourd'hui l'histoire de la comédienne Charlotte Valandré qui à 17 ans contracte le VIH. Après deux infarctus, elle doit être greffée du cœur. Deux ans après cette opération, elle reçoit deux lettres du mari de la donneuse dont elle tombera amoureuse. Vous entendrez cet après-midi le témoignage de Charlotte Valandré. Ondelat raconte, c'est donc à 14h sur Europe 1. Oh,